Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Imogen Cooper.
Bonjour Marc, comment ça va?
Ça va très bien. Alors on voulait vous donner un petit coup de fil de Cobuzz parce qu'on voulait un petit peu parler avec vous notamment de vos enregistrements Schubert.
Oui.
Trois volumes qui sont des enregistrements live d'ailleurs.
Oui.
Vous allez un peu nous expliquer d'ailleurs pourquoi le live, etc. Alors peut-être avant de commencer en détail, est-ce que vous pourriez un peu nous raconter votre, je sais pas si on peut dire, votre histoire d'amour avec Schubert? Comment s'est fait la rencontre? Comment cette relation a évolué et où elle en est aujourd'hui?
Eh bien, ça remonte à très longtemps. Du temps de mes années au Conservatoire de Paris, quand j'étais assez jeune fille, j'en jouais peu. Je jouais ce qu'on appelle la petite sonate en la majeure, qui ne reste toujours pas une de mes œuvres préférées. Mais par ailleurs, j'écoutais énormément. J'écoutais la musique de chambre, les quatuors à cordes, la quintette à cordes, les leads. Je ne sais pas où je trouvais des disques, mais je trouvais et j'écoutais. Et l'histoire d'amour avec le piano a commencé au moment du début de mon travail avec Alfred Brendel et Jörg Demus et Paul Badura-Skoda, puisque je suis allée à leur classe, à leur cours d'interprétation à Vienne, quand j'avais 20 ans. Et j'ai surtout travaillé avec Brendel, qui était lui à ce moment-là pas aussi renommé et connu qu'il l'est maintenant, donc il était beaucoup plus chez lui à Vienne. Et il se trouve que lui apprenait lui-même les grandes sonates, les dernières sonates à ce moment-là, peut-être pas la toute dernière, mais les autres. Donc ça l'intéressait beaucoup de les enseigner. Donc je m'étais plongée dans les grandes sonates dès cet âge-là. Et ben voilà, en plusieurs tranches et beaucoup d'années après, je suis arrivée, beaucoup d'années et des enregistrements, parce que j'ai enregistré ces œuvres-là aussi dans mes 30 ans, mais pas live, en studio. Et j'y suis revenue parce que je pense toujours que je suis arrivée à une période de ma vie, à un âge où j'arrive beaucoup mieux à faire sur scène ce que je veux qu'il y a quelques années. Et j'adore l'atmosphère de la scène, j'adore l'atmosphère d'un public qui écoute. Je trouve ça très très spécial et il a une énergie très spéciale. Donc bien que c'était un immense projet, j'ai décidé de refaire toutes ces 6 dernières années de Schubert parce que je me sentais prête à dire quelque chose de nouveau et avec un peu de chance un peu plus profond qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et c'est arrivé que j'étais invitée à faire donc 4 concerts à Queen Elizabeth Hall, à South Bank Centre à Londres, tous les 6 mois entre 2008 et 2010. Non, 2008 et 2009. Et la BBC allait les enregistrer de toute façon. Alors ce n'était qu'un petit pas à faire passer le matériel à une maison de disques qui sortirait ça comme disque commerciaux. Voilà. Voilà le voyage pratique. Le voyage du cœur à l'intérieur a été beaucoup plus long et beaucoup plus riche et très compliqué parce que ces œuvres sont très compliquées. Les grosses, comme vous savez, les grosses sonates sont longues. Elles durent 38, 40, 42 minutes. Et pour tenir le coup et en faire quelque chose qui a un sens, qui a une ligne, qui tient du début jusqu'à la fin et qui pourtant prend son temps parce que Schubert était un marcheur avec un pouls de marcheur et c'est très rare qu'il ait des tempi extrêmement vite ou non plus des tempi très lents. Et d'en faire quelque chose de congru et de beau et de riche qui parle et qui parle direct aux oreilles et au cœur, eh bien, ça m'a pris beaucoup d'années.
Justement, sur cet aspect de parler, j'ai trouvé une anecdote de vous assez intéressante dans une interview que vous aviez accordée il y a quelques années à un quotidien anglais, où vous racontiez un concert à Buenos Aires, en Argentine, justement d'œuvres de Schubert, où à la fin du concert, une spectatrice assez jeune était venue vous voir pour vous dire que c'était la première fois qu'elle se rendait à un concert de musique classique et qu'elle avait entendu dans ce concert la peur, l'horreur, la mort, la tendresse, la solitude. Et voilà, c'était assez saisissant.
Et c'était touchant parce qu'elle a dit « Est-ce que je suis à côté de la plaque ?» J'ai dit « Non, pas du tout, continuez. » Et elle a dit « Ça m'a tellement frappé que je voudrais revenir demain soir parce que le récital était deux soirs de suite. » Et ça, pour avoir une jeune personne qui dit ça, c'était extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce qu'elle est tombée en plein sur les choses qui sont dedans. Donc, c'est clair que c'est une musique qui parle à toutes sortes de personnes.
Pour revenir sur l'aspect justement live, est-ce que votre état mental, votre état physique et de l'autre côté votre piano n'est pas le même que quand vous êtes en studio par exemple, quand vous êtes face à un public?
Ma façon de jouer, vous
voulez dire, aussi bien votre jeu, mais votre approche finalement de votre instrument. Ou est-ce que finalement vous avez l'impression qu'il y a des différences, des différences d'état, de perception?
Différent de la façon que je vois l'œuvre, si vous voulez. Ouais. J'ai une vision, une audition, si on peut dire, je ne sais pas quel est le bon mot, assez claire dans ma tête, qui peut un peu changer, être un peu flexible, mais je sais dans quelle direction je veux aller. Ouais. Évidemment, en studio, si on a l'énergie et la force, on peut y retourner pendant 10 heures de suite, 4 jours de suite, c'est possible. Le live, évidemment, il faut avoir le courage de prendre des risques sur place parce qu'on n'a pas... il faut dire que la répétition a été prise aussi et il y avait de quoi faire une demi-heure de retouche après le concert. Mais en fait, en fin de compte, on s'est servi beaucoup du récital même, du récital live. Et non, c'est simplement qu'il m'a fallu jusqu'à maintenant pour arriver à soutenir et exprimer tout ce que je voulais. Avant, en studio, c'était plus facile parce que je pouvais recommencer. Maintenant, je sais que je peux mieux tenir le coup du début jusqu'à la fin et tenir l'attention du public et les faire ce voyage avec moi, si vous voulez.
Est-ce que c'est facile, justement, d'avoir ce recul? Vous dites, j'arrive à faire ceci, je sais que je peux faire cela, etc. Quand on est pris comme ça dans une carrière comme la vôtre, on enregistre, on joue, etc., de prendre du recul, presque de sortir de son propre corps et de regarder un peu le parcours accompli, ou est-ce que finalement on est dans un flow permanent?
Eh bien, il y a un peu des deux. Je crois que ça dépend du répertoire dont on parle. Quand c'est un répertoire qui est très proche du cœur et très proche de ce qui est vraiment important, on a une meilleure chance de voir où on en est dans le parcours qu'un répertoire qu'on essaye de dominer ou de faire partie de ce grand flou, mais on n'est pas très sûr où on en est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et là, c'est moins clair.
C'est facile d'être son propre juge? C'est difficile ou c'est facile d'être son propre juge quand on...
Ça, c'est une bonne question. Alors, ça, pour vous répondre. Je suis très critique de moi-même, mais est-ce que j'entends... C'est pour ça que je trouve que le meilleur professeur, c'est de s'écouter en concert, c'est d'entendre un enregistrement de quelque chose de live et de se dire... Parfois, on a des bonnes surprises, on n'a pas que des mauvaises, mais très, très souvent, il y a des petits détails où on s'est dit « Ah, tiens, j'ai cru que j'avais la bonne solution pour ça, mais non, parce que le pouls ralentit ou au contraire, je presse, ou il n'y a pas le poids de timbre que je voudrais. » Et ça, on le sait pas forcément toujours quand on est sur scène soi-même. Mais on le sait mieux au fur et à mesure de vieillir, c'est sûr. On a un meilleur recul et on est peut-être un meilleur juge. Parce qu'on a moins prouvé, on est plus clair sur ce qu'on veut. Enfin, je pense que je dis la vérité, c'est difficile à dire.
Thank you.
Est-ce que vous avez des interprètes de Schubert de prédilection?
Eh bien, des morts, Edwin Fischer, beaucoup. En grosse partie Schnabel, mais je suis plutôt une Fischerienne qu'une Schnabelienne. Mais ça, c'est probablement à cause de la lignée de Brendel qui a suivi, qui était aussi, lui aussi, Fischerien. Donc, je sens très fort cette ligne qui descend de génération en génération. Et de gens qui vivent maintenant, eh bien, l'Autrichien Till Fellner, j'aime énormément.
Ah, c'est encore la collection Brendel, un peu, là.
oui, c'est sûr. Oui, mais en fait, il était à un âge où il est devenu tout à fait autonome.
Tout à fait.
Et il a sa propre voix. On pourrait dire la même chose du pianiste anglais Paul Lewis. Radulopu, ça peut être extraordinaire. Il y a certaines œuvres que j'ai entendues, que j'ai beaucoup aimées. Dans les années passées, un peu Andras Schiff. J'ai dit seulement les années passées parce que je ne l'ai pas entendu jouer Schubert depuis pas mal de temps, mais il y avait beaucoup de choses que j'avais beaucoup aimées. J'en oublie probablement, mais...
C'est les noms qui vous viennent à l'esprit, voilà. On va dire, les principaux. Oui, comment vous vivez avec les disques? Est-ce que vous avez une grande discothèque chez vous? Est-ce que vous écoutez beaucoup? Et d'ailleurs, même comment ça a évolué? Est-ce que quand vous étiez étudiante, jeune, est-ce que vous achetiez plein de disques?
À ce moment-là, beaucoup plus que maintenant. Beaucoup plus que maintenant. J'ai tendance à écouter tout à fait autre chose. Juste avant que vous appeliez, j'ai écouté un groupe hongrois extraordinaire qui s'appelle Musicas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un groupe de 4 ou 5 musiciens qui sont allés en pleine campagne hongroise chercher la même musique que cherchait Bartok et Liszt et faire des interprétations là-dessus, enfin jouer de façon pour nos jours modernes maintenant une interprétation de cette musique de la campagne qu'ils entendent. Et il y a une chanteuse qui s'appelle Martha Sebastian qui a une voix extraordinaire, très rauque, très assez cru, mais ce qu'ils expriment, ça va droit au cœur. Et j'écoute beaucoup ce genre de musique-là. Beaucoup de choses. Ben, ça s'appelle musique du monde, je crois. Ça paraît peut-être bizarre, mais je ne sais pas, il y a quelque chose de direct là que je cherche pour mon propre jeu aussi. Et ça me fait plus de bien que d'entendre une symphonie de Beethoven moyennement joué, si vous voulez. Si c'est ça, j'aime mieux regarder une partition de Beethoven et essayer d'imaginer dans ma tête comment je voudrais que ça sonne.
Comment vous choisissez vos répertoires? Comment vous choisissez même ceux que vous voulez enregistrer, par exemple, plutôt que ceux que vous voulez jouer?
Oui, Schubert a beaucoup dominé ces deux dernières années, bien sûr, parce que les quatre récitals faisaient... je faisais 2h15 de musique chaque récital, donc c'est...
Il y avait même un côté physique, en plus.
Ouais,
comme un sportif, énorme. Presque.
Énorme. Et j'ai évité pendant longtemps de faire les 3 dernières sonates posthumes ensemble, parce que je trouvais que ça faisait... Je trouvais qu'il y avait un tout petit élément cirque. Et parce que de le faire, juste parce qu'il a écrit les 3 sonates en septembre 1828, pendant 3 semaines, ce sont des œuvres tellement énormes et tellement complètes en elles-mêmes, que j'avais tendance, quand je les écoutais en concert, même si c'était merveilleusement joué, de trouver que il y en avait toujours une de sacrifiée, soit chez le pianiste ou la pianiste, ou soit pour le public. C'était quasiment impossible d'écouter les 3 avec une même concentration. Alors j'avais tendance de les repartager dans mes concerts. Mais à la toute fin, en décembre dernier, j'ai eu l'occasion de faire dans une très belle salle, avec beaucoup de public, mais pas très londonien, si vous voulez, enfin assez différent, de faire les 3 dernières sonates. Et je me suis dit, allez, j'y vais, ça suffit que je dise dans des interviews que je ne veux pas le faire, sans l'avoir fait et sans comprendre pourquoi je ne veux pas vraiment le faire. Et ben j'ai eu tort, c'était extraordinaire, c'était un voyage absolument extraordinaire, c'était crevant. J'ai commencé à 8h10, j'ai terminé à 11h25, je ne sais pas si j'ai joué si lentement, mais en tout cas ça a pris tout ce temps-là, et c'était énorme, c'était grandiose, c'était... Je ne sais pas si je choisirais de le refaire, pour tout vous dire, mais je suis très contente de l'avoir fait, parce que finalement, justement pour cette raison-là, Schubert l'a fait lui-même pendant ces 3 semaines-là. Donc, c'est absolument notre droit et notre devoir de pouvoir écouter quel était ce voyage-là pour lui. Donc, je n'ai pas regretté.
Alors, dans les répertoires, il y a aussi le lead avec Wolfgang Holzmaier, oui. Avec qui vous travaillez depuis pas mal de temps et régulièrement un peu.
Depuis longtemps, différent. Depuis 16-17 ans. Et maintenant avec d'autres chanteurs voilà. aussi. Marc Padmore, Christian Ostertein, la mezzo-soprane hollandaise, et d'autres, je ne sais. Mais enfin, surtout ceux-là. Et je crois que ça, pour moi, c'est important. Si on aime Schubert, il faut faire les deux. Pareil pour Schumann. Et je me lance maintenant, vraiment ces jours-ci, en 3-4 jours, je me lance dans un programme où il y a beaucoup de Schumann, étant donné que c'est l'année Schumann. Et là aussi, je vais faire deux récitals lead avec beaucoup de Schumann. Et je crois que les deux se complètent pour raconter l'histoire, comme dit Holzmaier. Il dit toujours avant qu'on rentre en scène, « Erzähl die Geschichte, raconte l'histoire. » Et ça, je me le dis aussi moi-même quand je rentre pour faire la musique solo. Pas besoin de chanteur pour se dire ça. Parce que ces compositeurs-là, ils racontent des histoires, que ce soit à travers des leads ou à travers la musique solo. Et il faut pouvoir faire parler. Donc ça aide énormément de faire du lead et de comprendre un peu leur monde intérieur et quel était leur choix de poèmes et des poèmes plus ou moins bien d'ailleurs, mais enfin, où ils allaient pour développer des idées musicales aussi intenses et aussi belles.
Vous travaillez aussi avec des compositeurs contemporains, vous avez
Thomas Sadès. Ça m'arrive pas très souvent, parce que pour tout vous dire, je me suis mise tard. Ouais. Vous savez, quand j'ai grandi, on faisait plutôt un choix. On était soit soliste classique, soit on était chambriste, soit on était accompagnateur, mot atroce que je déteste, soit on faisait de la musique moderne, la musique contemporaine. Maintenant, les jeunes, Dieu merci, font un peu un mélange de tout, et c'est beaucoup mieux comme ça. Mais moi, je suis d'une génération où il fallait faire un choix, alors mon choix, c'était d'être soliste. Donc, je suis venue finalement à la musique contemporaine dans mes 40 ans seulement, et ça m'a pris, ça me prend énormément de temps, et les commissions que j'ai faites, surtout de Thomas Hades, ça m'a pris 10 ans de ma vie et 10 heures de travail par jour pendant 2 mois.
Et c'était enrichissant, j'imagine. C'était quelque chose, une expérience unique.
Extraordinaire, surtout de quelqu'un qui est un vrai génie comme lui. Mais j'ai besoin de beaucoup de temps, alors ça m'arrive seulement peut-être tous les 3 ans, quelque chose comme ça.
C'est Pierre-Laurent Aymard qui dit que pour lui, travailler, avoir la chance de pouvoir travailler avec un compositeur, donc quelqu'un qui est vivant, c'est un peu le nec plus ultra. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, quand on peut interroger un compositeur, alors qu'on avait à première vue du mal à pouvoir interroger Schubert ou Schumann, est-ce que de pouvoir justement communiquer avec un compositeur, c'est quelque chose une perception assez unique ?
Assez fascinant. C'est une expérience absolument unique, la première fois qu'on leur joue un morceau, et de savoir qu'il n'y a que vous et lui ou elle qui savent comment ça sonne. Et encore, est-ce qu'on a le même aperçu? Parce que ce qu'on interprète, je me souviens avec Hades, la façon dont je lui ai joué Traced Overhead, il y avait des grosses parties où il a dit non, tu n'as pas tout à fait pigé là. Et puis il se mettait au piano, lui qui est pianiste extraordinaire. Et je voyais beaucoup mieux tout de suite. Était-ce à cause de sa façon d'écrire qui était archi compliquée ou simplement parce que j'étais un peu lente au sujet, je n'en sais rien. Mais Pierre-Laurent, c'est très spécial, il est génial pour ça. Il est génial, ça vraiment, il a un don pour cette musique-là qui est absolument extraordinaire. Il en fait quelque chose de vivant et de il joue ça fantastiquement.
Vous avez cité tout à l'heure les noms de Brendel, de Badoura Skoda, donc ont été des professeurs, on va dire. Il y a eu Yvonne Lefébure, enfin, il y en a eu pas mal. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de vos années d'apprentissage? Est-ce que quand vous regardez à Paris et même à Vienne après?
Ah oui, c'est ça. Ben, à Paris, j'étais quand même toute petite. Hein. J'avais entre 12 et 18 ans. J'étais aussi avec Lucette Descaves, avec Jacques Février. Enfin, il y a eu toute une génération et j'ai eu énormément de professeurs. Écoutez, le conservatoire était très différent à ce moment-là. C'était beaucoup plus discipliné, je pense que ça ne l'est maintenant. C'était probablement assez, en quelque sorte assez borné, mais l'éducation était aussi profonde. J'ai vraiment appris à m'entraîner à être une professionnelle à ce moment-là. Comment remplir 4, 5, 6 heures de travail par jour, chose que je ne fais pas maintenant, je trouve ça trop. Mais à cette époque-là, il fallait le faire. Évidemment, je le faisais à un niveau différent aussi à cette époque-là. Mais, et de voir cette discipline d'un professeur qui disait « Non, ça va pas, je ne veux pas entendre que tu as le mal du pays ou quoi que ce soit, tu as mal joué, tu reviens demain », eh bien, il ne s'agissait pas de faire des bêtises. Il fallait, et c'est bien, parce que notre métier, c'est comme ça. Il faut rentrer en scène, même quand on n'en a pas envie, et jouer à son mieux. Donc, d'apprendre ça très jeune, je crois que Paris était un bon endroit pour ça. Et les classes de musique de chambre étaient fascinantes parce que j'avais Jacques Février comme professeur. La classe d'harmonie était très riche, très forte aussi. Je crois que je suis contente d'en être partie quand même assez jeune. 6 ans, c'était beaucoup. J'avais besoin de quitter une institution, si vous voulez, un institut même qui fut enrichissant. Après 6 ans, c'était beaucoup. Et à ce moment-là, je suis revenue ici. Et quand j'ai rencontré Brendan, bah, c'était complètement autre chose. Il s'est rendu compte que, à cause de mes années au conservatoire, je savais pas mal jouer du piano, mais il fallait ouvrir beaucoup, beaucoup d'autres portes. Et il avait un don, lui, justement, de prendre un tout petit peu pour acquis le côté technique, mais de faire écouter et de faire raffiner un son et de faire vraiment... de sorte à ce qu'on ait une idée très très claire de ce qu'on voulait entendre et qu'il n'y ait aucun blocus, comment on dit ça, bloc entre ce qu'on entendait et les mains qui étaient sur le clavier. Et il était fort pour ça, il était très fort et fort pour faire apprendre comment tenir une grande ligne de tension d'un début de morceau jusqu'à la fin. Du silence d'avant un morceau jusqu'au silence après la fin. Ça, il avait dit qu'il avait appris lui-même d'Edwin Fischer. Où était la tension, où était la relâche de tension, l'équilibre du son entre les voix quand il y avait des accords. Par exemple, quand on joue fortissimo, pas forcément jouer fortissimo des deux mains, parce que parfois, si on était dans le haut du clavier, c'était beaucoup plus excitant d'entendre un son... clair, aigu et fort dans l'aigu, et un son plus tamisé dans la basse, au lieu de tonner des deux côtés. Et des centaines de détails comme ça qui étaient absolument fascinants. Fascinants. Et c'était peut-être des choses qu'il découvrait lui aussi, lui, à ce moment-là, surtout dans ce répertoire de Schubert et des grands classiques. Parce que, comme vous savez, il a commencé, lui, sa vie plutôt avec la virtuosité. Son premier disque, c'était Petrushka de Stravinsky, Islamé de Balakirev et je ne sais pas trop quoi d'autre. Beaucoup de Liszt. Et il est venu à Schubert, Beethoven, tout ça prend dans ses 30 ans. Donc, lui aussi apprenait comment faire toutes ces choses-là. Enfin, lui aussi. Il ne veut pas que ça sonne comme ça, mais je veux dire qu'il était à un moment d'apprentissage, si vous voulez... Donc, il aimait beaucoup expliquer. Il était très éloquent, voilà, c'est ça que j'essaie de dire.
Et Badura Skoda
Et Badura Skoda, mon souvenir était que j'ai beaucoup moins travaillé avec lui. C'était beaucoup... pour tout vous dire, il cherchait, à cette période-là, il cherchait pas mal moins. Les choses étaient comme ça. On faisait les choses comme ça. Edwin Fischer m'a dit... Je faisais ceci, je fais cela. Tandis que Brendan, il expliquait pourquoi il le faisait. Et il faisait vraiment questionner. Il a dit, je ne suis pas convaincu par ce passage-là. Et voilà pourquoi. Et rejoue-le. Et il faisait écouter. Badura était moins questionnant. C'était plus un fait acquis, si vous voulez.
Thank you.
dans toute cette période-là, est-ce qu'il y a un moment où on a assez de recul pour se rendre compte que ça y est, on exprime sa propre voix et on n'est pas juste une élève, etc.
C'est une très bonne question. C'est pour ça que là aussi, je suis partie de Vienne après deux périodes de 6 ou 7 semaines, je pense, 2 années de suite. Il se trouve que Brendel, à ce moment-là, a changé de femme et est venu vivre à Londres. Mais à ce moment-là, c'était très différent. Je ne suis pas... J'ai senti très fort que pour ne pas être... comment est-ce qu'on appelle ça? Sosie? Non, quel est le mot? Non, c'est pas
un
ça.
Un clone?
Voilà, c'est ça, un genre de clone. Qu'il fallait que je me distance un peu et que je digère moi-même et que j'en fasse quelque chose qui était mien, quitte à même rejeter quelques idées n'étaient... Enfin, je ne sentais pas pour moi, si vous voulez. Alors, à Londres, j'ai continué à le voir, mais je lui apportais plutôt des enregistrements de concerts que j'avais faits. Alors, on écoutait le fait acquis. Est-ce que c'est la bonne expression? Non, pas exactement. Vous voyez ce que je veux dire? On écoutait ce qui était déjà fait. Et c'était un genre de travail plus distant, si vous voulez. Il me disait, c'était des gros coups de pinceau. Il me disait, je trouve que ça ne va pas. Il faut que tu te poses des questions sur ce passage-là. Ça c'est bien, tu es arrivé. C'était différent. Et puis, je le faisais de moins en moins. Et puis, on a enregistré Mozart ensemble. Et il m'a traité tout à fait comme égal, si je puis dire. Enfin, c'était très généreux de sa part. J'étais encore assez jeune.
L'enseignement, c'est quelque chose qui vous... qui vous intéresse, qui vous attire, qui vous... Parce que par rapport justement à ces personnalités, ce qu'on a envie après soit de transmettre et même d'apprendre de ses élèves, puisque ce que vous disiez, un peu, il y a un aspect échange aussi, c'est pas tout le temps dans un sens, à sens unique.
Je ne suis pas une période de ma vie où ce serait très responsable de prendre... J'ai une jeune élève qui peut très bien se passer de moi pendant 3-4 semaines à la suite, surtout que j'ai un assistant qui peut aider, mais je n'en ai pas plus que ça. Et je ne sais pas comment vous le dire, parce que je voudrais faire passer tout ce que j'ai appris, c'est sûr, et tout ce que pas seulement ce que j'ai appris, mais ce que j'apprends moi-même sur scène. Mais les tout jeunes qui sont encore à l'état conservatoire, ça... J'aime beaucoup quand ils sont en tout début de carrière, voilà. Quand ils commencent déjà à rentrer sur scène, quand il y a des choses qui doivent éclater, qui n'éclatent peut-être pas encore, ou qui éclatent trop, et on a besoin de raffiner ou d'être une paire d'oreilles extérieures à dire, oui, enfin, ma foi, peut-être, si je puis dire, un tout petit peu ce que Brendel était pour moi. Sauf que j'étais pas si avancée que ça à ce moment-là. Non, j'aime bien dans les 23-24 ans, quelque chose comme ça. Et j'aime bien que les gens soient de passage et qu'ils viennent et qu'ils me jouent un morceau, peut-être au grand maximum de fois, et puis que je ne l'entende plus et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est de l'enseignement. Je crois que c'est plutôt une paire d'oreilles avec beaucoup de bienveillance et de bonne volonté qui ne veut que du bien, quoi.
Dans vos projets, donc, vous avez parlé là un peu de quitter Schubert pour aller plutôt vers Schumann. Est-ce que vous avez d'autres envies, des projets, que ce soit au disque, au concert, ou des projets futurs ou proches?
Je viens de terminer hier soir, il se trouve, un cycle Beethoven sans chef d'orchestre avec un orchestre chambre extraordinaire pour le Britten Symphonia, qui est vraiment, il faut les noter parce qu'ils sont vraiment... Ils sont vraiment remarquables, absolument remarquables. Et on a fait le 5e de Beethoven à Bregenz hier soir. Et je ne pensais jamais que ça allait être possible. Mais maintenant que je sais que c'est possible, 4e et 5e concerto, c'est très dur. J'aimerais y retourner, j'aimerais beaucoup les enregistrer, je dois dire. Mais il m'a fallu du temps pour... Que dire de neuf sur les concertis de Beethoven? C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps. Mais je ne sais pas, on a trouvé de la fraîcheur, on a trouvé... Mais voilà, ça c'est en plein milieu du classique. Je voudrais retourner à Janáček. J'aimerais beaucoup plus jouer de Janáček. Je voudrais faire un mélange de Janáček et de sonates de Haydn qui sont peu jouées. J'ai fait des trios de Haydn avec des membres de la Philharmonie de Berlin au festival de Pâques à Salzbourg cette année. Et ça, c'était vraiment une découverte pour tout le monde, je pense. Donc peut-être enregistrer des trios de Haydn si je trouve les bons joueurs, je crois que je ne peux pas trop compter sur la Philharmonie de Berlin, mais il y a beaucoup de gens extraordinaires qui sont là, beaucoup d'instrumentistes à cordes qui jouent merveilleusement bien.
Vous avez dit tout à l'heure que finalement vous n'écoutiez plus trop de classiques, vous aviez cité ce groupe, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'est-ce que vous écoutez d'autre sinon en ce moment ou... Est-ce que vous écoutez, je ne sais pas, du jazz, de la musique du monde, de la variété,
oui,
etc.
Non, variété pas trop. Enfin, j'adore Jacques Brel, mais j'y reviens régulièrement, mais pas récemment. Écoutez, je vais être absolument honnête. Quand je suis chez moi, j'aime beaucoup le silence.
Parce que la musique aussi.
C'est-à-dire qu'entre les voyages qui sont bruyants et le bruit que je fais moi-même, j'apprécie beaucoup le silence, j'ai besoin de réfléchir et de rêver et de... Alors si je vous dis que j'écoute pas énormément de musique, c'est pas faux. Je vais au concert quand ce sont des amis chers ou des choses qui vraiment m'intéressent, puisque Londres est quand même une ville très riche de ce côté-là. Sinon, je vais plutôt au cinéma ou au théâtre ou j'essaie de voir des amis, parce que c'est une vie extrêmement solitaire, surtout quand on est soliste et soliste piano, parce qu'on a, si j'ose dire, besoin, entre guillemets, de personne d'autre. Donc, on est très, très souvent seul. Donc, pour ne pas devenir complètement fou dingue, eh bien, il faut avoir un petit peu une vie sociale aussi. Donc, c'est nécessaire de voir les amis. C'est nécessaire d'avoir de la douceur, de l'humanité, un stimulus autour qu'on n'a pas toujours quand on voyage seul. Donc, pour tout vous dire, avec pas mal de concerts aussi, et bien ça me remplit pas mal ma vie. On peut s'imaginer.
Bon, on vous souhaite bonne chance pour les prochains concerts.
Et bien, je vous remercie beaucoup, Marc.
Merci beaucoup, Imogène. Au revoir.
De rien. Au revoir.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.